internationale, l'incertitude persiste encore ce jeudi 24 heures après les coups de force de l'armée dans la nuit de mardi à mercredi au Zimbabwe. L'armée refuse de parler d'un coup d'État. Parmi les réactions, le président de l'Union africaine appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question de l'émission et nous avons autour de cette table John Banza, qui est premier secrétaire général adjoint de l'UNAFEC, parti membre de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur John Banza.
Bonsoir, je suis secrétaire général.
Muindo Nzangi, député national de l'opposition, il est cadre du MSR, parti membre du G7 du Rassemblement. Bonsoir, honorable Muindo Nzangi.
Bonsoir.
Et professeur Jeff Mundimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Jeff Mundimbi.
Bonsoir, monsieur Guimaté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Hier mercredi, la capitale zimbabwéenne Harare s'est réveillée contrôlée par les militaires, mais un grand nombre de questions restaient sans réponse plus de 24 heures après l'intervention des officiers à la télévision publique mercredi matin. Pour le professeur Félicien Kabamba de la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, la grande question est celle de l'alternance démocratique. Il estime que tout pouvoir sans limite est appelé à une fin tragique. On l'écoute au téléphone d'Alain Irung.
La grande question qui se pose dans l'exercice du pouvoir en Afrique et en particulier au Zimbabwe aujourd'hui est celle de l'alternance démocratique. Quand vous regardez l'histoire récente de la plupart des régimes africains, vous allez vous rendre compte que la chute de régimes dictatoriaux comme ceux de Blaise Compaoré, Yahya Jammeh et aujourd'hui Robert Mugabe marque véritablement un tournant de l'histoire politique des régimes. En clair, ces régimes que l'on croit forts sont en réalité faibles. On les croit inamovibles parce que c'est des régimes totalitaires, mais finalement, ils s'écroulent aussi facilement. Et à la clé, ce sont les revendications d'alternance démocratique. La particularité de la question d'alternance ou de la revendication d'alternance au Zimbabwe est que cette question ne s'est pas réglée par la rue, mais plutôt au niveau de l'armée. La leçon à tirer est donc la suivante, c'est que le pouvoir de l'État n'est pas un pouvoir éternel, un pouvoir temporaire. Il doit être délimité dans le temps. De la sorte, les modalités de sa dévolution doivent être bien standardisées et partagées dans toute la société. C'est de cette manière-là que tout pouvoir sans limite est appelé à une fin tragique.
John Banza, vous avez précisé, vous êtes secrétaire général de l'UNAFEC, parti membre de la majorité présidentielle. Comment vous analysez cette confusion qui règne à Harare depuis mardi dans la nuit?
Je tiens d'abord à saluer l'honorable Muindo ainsi que le professeur Mudimbi et tous les auditeurs qui nous suivent à travers la République et ailleurs. Cette situation, je dois vous avouer que à travers les médias, c'est la seule source d'information que nous avons. Donc on ne connaît presque pas grand-chose à part ce qui est reporté à travers les médias. Est-ce que cela est suffisant pour comprendre la profondeur de la question, pour comprendre les enjeux, pour comprendre comment on est arrivé là? Et le peu d'informations que nous avons à travers les médias, nous devons être un peu prudents dans l'analyse, dans les conclusions. Parce que ce que nous savons, c'est que il y a autour du président zimbabwéen deux camps qui s'affrontent. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les groupes Lacoste, piloté par le vice-président, et de l'autre côté...
Donc les vétérans de l'indépendance. Hein?
Tout à fait, et de l'autre côté, il y a un groupe qu'on appelle les G40. Hein? Et il faut voir le chef de file de ce groupe-là, c'est la première dame. Donc il y a ces deux groupes au sein d'un même parti qui s'affrontent et qui se préparent pour la succession. Donc c'est une situation interne. la pratique internationale, la pratique des relations internationales nous condamne, nous exige le respect des autres pays et le respect de tous les autres peuples. Donc nous ne pouvons pas donner des jugements de valeur, tout en ne connaissant pas les tenants et les aboutissants de cette question-là.
Voilà, vous venez de le souligner, on ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe actuellement au Zimbabwe, mais il faut reconnaître que l'attitude de ces officiers a surpris tout le monde, hein, même si à la veille, les chefs de l'armée avaient promis que face à la purge au sein du parti au pouvoir, les ZANU-PF, elle ne resterait pas passive, mais est-ce qu'on voyait ces militaires aller jusqu'à ces coups de force?
Vous savez, le danger chez nous, c'est qu'on se fait spécialiste de toutes les questions. Donc on devient des spécialistes universels, même sur des questions qu'on ne maîtrise pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la question est tellement importante et sérieuse qu'il faut avoir les données précises. Il faut connaître le tenant et les aboutissants. Nous ne sommes pas des spécialistes ni du Zimbabwe, ni de la ZANU-PF.
Est-ce que vous, personnellement, vous voyez les militaires aller jusqu'à commettre ces coups?
Mais cela dépend du contexte, cela dépend des enjeux, cela dépend de la politique interne et du parti et du pays. Et donc ici, vous ne pouvez pas poser la question à un acteur politique congolais et de donner un point de vue sur une question essentiellement interne à un pays et essentiellement interne à un parti politique.
Voilà, vous l'avez rappelé, tout est parti de cette lutte de succession que s'est livré les camps des vétérans de la guerre d'indépendance plutôt d'un côté et le G40 de l'autre qui soutenait l'épouse du chef de l'État, lutte qui a abouti au renvoi du vice-président Emmerson Mnangagwa. Et pensez-vous que le président Mugabe avait bien géré cette situation?
Mais vous savez, la question des successions dans un parti est éminemment complexe parce que il faut être membre de cette formation politique pour comprendre pourquoi et comment les partis fonctionnent. Et donc c'est très compliqué de donner un jugement de valeur sur une telle question.
Alors, est-ce que le président Mugabe n'était-il pas lui-même devenu, n'est-ce pas, méfiant vis-à-vis de ses anciens compagnons de lutte qui apparemment ne les rassuraient pas quant à son sort, n'est-ce pas, et après qu'il serait parti du pouvoir?
Mais vous savez que c'est un dirigeant qui a fait beaucoup d'années à la tête de ce parti et donc qui connaît les uns et les autres. Et donc, s'il est arrivé à une telle décision, et je crois que c'était une décision réfléchi, et je crois, à mon avis, et donc sans avoir tous les éléments du dossier.
Une décision réfléchie, mais qui aboutit à sa mise à l'écart.
Eh bien, ça peut arriver, les enjeux du parti, la vision de celui qui dirige le parti, les perspectives d'avenir d'un parti. Et donc, encore une fois, je vous dis que je suis très très mal à l'aise de me passer pour un spécialiste de la ZANU-PF ou du Zimbabwe. Et donc, c'est par respect à un pays frère, par respect à un parti ami, que nous devons voir ce qui se passe au niveau interne.
Mouindo Nzangi, député national de l'opposition, vous êtes cadre du MSR, parti membre du G7 et du Rassemblement. La situation qui prévaut au Zimbabwe aujourd'hui vous inspire quoi?
Non, je crois que vous sentez que mon co-débatteur a difficulté à pouvoir parler de cette question puisqu'il va faire. Bon, même si nous suivons tous sur les médias, il y a des faits. Il y a des faits. Le premier fait, c'est qu'il y a eu une crise interne au parti. Et cette crise interne qui est consécutive à une crise de gouvernance au niveau du Zimbabwe, c'est une question. Et vous avez vu que dans tous les commentaires qui se passent, il y a une situation économique calamiteuse liée à une gestion non orthodoxe du pays par Mugabe, un pays qu'il a voulu privatiser, un pays qu'il a voulu gérer comme une famille, un pays qu'il a voulu gérer comme un héritage personnel. Et ça ne nous surprend pas que dans son propre cas vienne cette révolution des palais. Des gens qui sont exténués par ces méthodes, des hommes fatigués mais qui veulent rester à tout prix au pouvoir. Et un autre fait, c'est que l'armée l'a arrêté, puisque c'est le terme qu'il faut utiliser. Lorsqu'il a parlé, au moins ça c'est officiel, le président sud-africain a dit qu'il était assigné à résidence par les militaires. À ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que le président de la République a signé un résidence, dirige encore un pays. Donc il est fait que la situation aujourd'hui au Zimbabwe, c'est une situation de pseudo-coup d'État qui, pour lequel les exécutants ne veulent pas porter la responsabilité d'avoir fait un coup d'État et recevoir une condamnation internationale des États-Unis, qui veulent soigner ce coup d'État par un semblant de processus démocratique, en disant voilà, il a démissionné, le forcer à une démission, pour qu'à la fin de cette démission, son vice-président, qui est pratiquement le chef de file de ce nouveau courant, puisse prendre les rênes du pays démocratiquement, dans le respect de la Constitution. Ce qu'il faut souligner, par exemple, c'est que dans toutes les interventions de l'extérieur, que ce soit la France, qui a parlé qu'il faut respecter la légalité constitutionnelle. C'est-à-dire que même le président sud-africain qui a dit que voilà, il faut pas briser la constitution, ce que tout
même
le monde.
L'Union africaine.
Même l'Union africaine, non, je vais en parler autrement. Tous ils voient en évidence qu'effectivement Mugabe a 83 ans, avec tout ce qu'il a comme difficulté, même de marcher, ou même de parler, c'est difficile de tenir un discours qui puisse demander qu'il reste au pouvoir. C'est plutôt de trouver une sortie honorable à lui, une sortie qui ne plongerait pas le pays dans une crise de légitimité, une crise grave. Donc ça ce sont des faits. Mais maintenant, pour nous les Congolais, les débats que nous faisons aujourd'hui, Zimbabwe nous intéresse, puisque c'est un pays qui a été aux côtés de nous depuis trop longtemps. Et c'est un pays qui est venu à la rescousse de la République démocratique du Congo lorsqu'on était en difficulté.
En 98.
Oui, mais on ne doit pas oublier que c'est le seul pays qui est venu soutenir le chef de l'État à la prestation de serment après les élections chaotiques. Ça nous intéresse beaucoup. Ça nous intéresse.
Les élections
de
2011.
Nous savons que jusqu'aujourd'hui, notre pays entretient encore des relations militaires étroites avec les Zimbabwéens. Donc, ce qui se passe au Zimbabwe, ça nous intéresse beaucoup, mais ça nous intéresse puisque nous avons une situation similaire. Des régimes qui veulent se cristalliser, qui n'ont plus les moyens d'avancer, mais qui veulent montrer à la face du monde qu'il peut encore continuer de diriger, alors qu'il dirige très mal le pays. À ce moment-là, on ne le souhaite pas que des choses comme celles qui se passent au Zimbabwe puissent arriver. Ça veut dire que quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir, comme l'a dit le professeur Bob, il se retrouve à un moment devant une évidence telle que, voilà, son régime s'arrête de manière brutale.
L'armée zimbabwéenne prend le contrôle de points stratégiques de la capitale et dans une déclaration à la télévision publique, elle précise qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État, mais plutôt d'une opération contre les criminels qui entourent les chefs de l'État. Mouindo Nzangi, cette déclaration ne cache-t-elle pas un certain embarras, n'est-ce pas, des militaires? Parce que, en fait, on peut facilement et rapidement réussir un coup de force, mais il n'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de pouvoir l'assumer. Surtout dans un contexte régional où tout coup d'État contre un régime issu des élections est fermement condamné.
Moi, je ne trouve pas ça comme un embarras. Je trouve que c'est de la stratégie. La stratégie, c'est de faire en sorte que ça se passe dans le calme. Et je crois que jusque-là, ça se passe dans le calme, les activités se déroulent normalement, il n'y a pas de coups de feu, il n'y a pas mort d'homme. Et je crois qu'il la joue de manière intelligente. Ils ont fait la lutte ensemble avec Mugabe, ils ne veulent pas l'humilier, mais je crois que la situation telle qu'elle évolue, avec cette intransigeance de Mugabe qui ne veut, malgré le fait qu'il soit assiégé, il ne veut pas démissionner. Ça, la situation peut changer à tout moment. C'est pour cela qu'il faut qu'on reste un peu plus prudent.
Est-ce que vous pensez que l'armée a intérêt à formaliser ses coups de force?
Je crois qu'ils ont intérêt à le faire très vite, à formaliser les coups de force, l'arrêter et puis les jeter dehors. Puisque bon, dans tous les cas, s'ils trouvent qu'il ne va pas faire avancer les choses, puisque le plus ça dure, le plus ça devient dangereux.
Mugabe est toujours présenté par les médias comme un héros, n'est-ce pas, aux yeux de son peuple. Mais comment vous analysez l'attitude du peuple zimbabwéen qui jusque-là est resté sans réaction?
Ça, ce sont les médias externes. Quand les gens parlent de quelqu'un à l'extérieur, on donne l'impression que voilà, c'est un super-héros. On parlait de Gbagbo, la même chose. Les peuples africains sont fatigués. Il ne faut pas croire que les Zimbabwéens sont des cons, qu'ils ne voient pas que leur pays a plongé, leur économie a plongé à cause de l'intransigeance d'un individu. Et en plus de ça, l'individu veut que ce soit sa femme qui le remplace à la tête du pays. Je crois qu'ils en ont marre. Nous avons vu les États où il y a une tentative de coup d'État, des présidents qui sont soutenus par le peuple. Le peuple s'est levé. C'est le cas de la Turquie, vous avez vu, pour le cas d'Erdogan. Tous les pays s'est levé pour empêcher un coup d'État. Mais pour le Zimbabwe, l'armée a même demandé aux gens d'évacuer à leurs occupations et ils vaquent comme si rien n'était. Ça veut dire, ça nous montre le degré de mécontentement des Zimbabwe, du peuple Zimbabwe.
Merci, professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Vous êtes politologue. Et ce qui se passe actuellement à Harare, les militaires parlent d'un coup de force, l'Union africaine parle d'un coup d'État. Est-ce que ça ne revient pas au même? Est-ce que ce n'est pas un problème de sémantique?
Merci beaucoup, monsieur Guy, pour la question que vous venez d'imposer. Mais dans tous les cas, je voudrais faire remarquer que si le pouvoir a été un peu perturbé dans son fonctionnement par les militaires, et cela n'est ni moins ni plus qu'un coup d'État qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que par nature, le coup d'État est un moyen de prise de pouvoir par la force. Donc c'est pourquoi on le qualifie même d'être un moyen illégal et même non constitutionnel de prise de pouvoir. Alors, connaissant déjà que c'est un moyen illégal, un moyen anticonstitutionnel, alors personne, particulièrement les militaires qui ont agi ainsi, ne peuvent pas déclarer haut et fort qu'il s'agit d'un coup d'État. Mais je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là, pour dire s'il s'agit d'un coup d'État ou d'un coup de force, mais dans tous les cas, il y a eu prise du pouvoir par la force. Alors, on peut se poser la question, pourquoi cela alors est arrivé? Je pense que le débat peut être situé à ce niveau-là. Bien sûr, sans être spécialiste du Zimbabwe, ou encore un habitant de ce pays-là pour comprendre allègrement comment la situation se passe. Mais en tant qu'intellectuel, il y a lieu quand même de faire une certaine analyse à ce niveau-là. Donc, ma lecture est la suivante. Ce qui est arrivé au Zimbabwe n'est que la conséquence directe de l'exercice d'un pouvoir personnifié et même personnalisé. Un pouvoir qui a fait longtemps, mais qui n'a pas pris soin de travailler dans le sens de la satisfaction des besoins de la population et de la résolution de ces problèmes. Il est certes vrai que au début, Robert Mugabe a été salué comme un héros, mais à la fin, on a assisté à une grave inflation sur le plan monétaire, et la situation économique a tourné vraiment très mal, la situation sociale est peu enviable. Alors tout cela explique pourquoi l'État, donc les militaires interviennent sur la sphère politique. Il faudrait aussi retenir que le pouvoir politique d'une manière générale s'use. Avec le temps, il finit par s'user. Et c'est ici le lieu de rappeler encore une bonne citation d'Amadou Ampateba, lorsqu'il explique un peu la nature du pouvoir politique en Afrique en général. Le pouvoir, il est comme de l'alcool. Au premier verre, on est très gai comme un agneau. Et au deuxième verre, on se sent tellement fort que l'on cherche à imposer tout à tout le monde. Donc on se comporte vraiment comme un lion. Et au troisième verre, on se comporte comme un cochon et tout ce que l'on fait ne relève que de la cochonnerie. Donc il aurait été souhaitable qu'après avoir marqué considérablement le pays positivement, que l'on arrive quand même à une certaine alternance. Et je pense que Robert Mugabe partirait tête haute et poitrine bombée. Mais hélas, même au soir de sa vie, il voulait appliquer pratiquement le sectarisme. Et c'est entre autres ce qui a donné une brèche à l'armée d'intervenir. La science politique nous apprend que une des bonnes manières de faire taire ses adversaires, c'est de bien vouloir les associer aussi au pouvoir. Alors, la politique d'exclusion, le sectarisme, vouloir considérer le pouvoir comme son affaire propre, s'identifier au pouvoir, conduit toujours à des scènes exceptionnelles telles que nous le constatons de nos jours au Zimbabwe.
Oui, professeur, s'il faut revenir à la succession des événements au Zimbabwe, au lendemain de ces coups de force, le président de l'Union africaine avait appelé au retour de l'ordre constitutionnel, tandis que les officiers ont réagi en disant qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si les militaires qui contrôlent la capitale actuellement ont le même entendement que le président de l'Union africaine sur le concept de retour à l'ordre constitutionnel.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler ceci, que en considérant l'objectif pour lequel l'Union africaine a été créée, il y a lieu de saluer cette organisation à caractère régional, parce que l'objectif était très noble. Mais lorsque nous voyons l'Union africaine sur terrain, et cette déclaration ne m'engage que personnellement, et au regard de l'inefficacité de l'Union africaine sur terrain, je peux me permettre de dire haut et fort qu'il s'agit d'une organisation non seulement inutile, mais parfois nuisible, parce que la qualité même de ceux qui assurent la gouvernance de cette organisation, il y en a. Et si nous suivons très bien le parcours de succession des présidents de cette organisation, il y en a qui étaient même des anciens dictateurs, des putschistes. Alors, à ce moment-là, quelle est la leçon qu'ils peuvent donner? Bon, c'est vrai, on a interpellé les militaires de revenir à l'ordre constitutionnel. C'est une bonne chose, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que par cette déclaration, le président de l'Union africaine pense que réellement ça peut amener les militaires à marcher dans le sens qu'ils souhaitent? Non, il est une réalité indéniable qu'en Afrique ici, les gens ne peuvent fléchir que devant un risque imminent ou devant une menace très imminente. Alors à ce moment-là, on peut fléchir. Si le président peut penser que seule cette déclaration-là peut amener des militaires à fléchir, je pense que ce n'est qu'un coup de pied dans l'eau.
Vous avez dit que les militaires qui contrôlent la capitale ne veulent pas dire haut et fort qu'il s'agit d'un coup d'État. Vous avez suivi l'honorable Muindo Nzangi qui a estimé qu'il faut rapidement, n'est-ce pas, formaliser ces coups. Sinon, plus ça dure, plus ça va devenir compliqué, difficile à gérer.
Non, ce n'est pas cela. En effet, dans l'histoire des coups d'État en Afrique, nous allons constater qu'il y a eu des moments où les militaires ont fait les coups d'État pour eux-mêmes. Ils ont assuré un régime d'exception pendant un temps. Mais il est arrivé aussi, dans certains cas, où les militaires ont pris le pouvoir et finalement, ils ont fini par le céder aux civils qui ont organisé le pays pendant une période de transition avant l'organisation des élections. Donc je voudrais ici faire remarquer que le coup d'État, c'est un régime d'exception. Alors, c'est un régime transitoire pour arriver à normaliser ou à arranger un peu certains moments de crise qui peuvent être expliqués soit par les conflits entre gouvernants eux-mêmes, soit aussi les conflits entre les gouvernants et les gouvernés. Et il vous souviendra, par exemple, le cas qui s'était produit au Congo-Brazzaville, ici, avec Philbert Youlou. Donc, son renversement était pratiquement ici, pouvait être expliqué par le mécontentement entre les syndicats et même d'ailleurs sa gestion.
Merci.
Donc, je voudrais dire ceci, que, bon, c'est vrai, quand il y a des conflits entre gouvernants et gouvernés, les militaires peuvent faire leur entrée sur la scène politique.
Merci, professeur.
Quand les gouvernants eux-mêmes ne s'entendent pas, ils peuvent également, pour normaliser les choses pendant un temps, en attendant qu'on revienne à la situation constitutionnelle normale.
Merci, M. John Banza. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
Chouk Mouigirwa à Lubumbashi. La situation qui prévaut à Harare peut être comparée d'une part aux événements de 1961 dans notre pays, lorsque Mobutu avait neutralisé le pouvoir en place de l'époque suite au conflit de leadership qui divisait Kasavubu et Lumumba. En effet, l'intervention de l'armée zimbabwéenne peut être fondée dans le sens que le fait de limoger le vice-président du Zimbabwe afin de baliser le chemin pour Madame Grace Mugabe à la magistrature suprême allait sombrer le pays dans une crise interminable, du fait que les raisons à la base de ces limogeages sont plus sentimentalistes et politiques à la fois. Bien qu'on ne peut pas soutenir un changement anticonstitutionnel mené par les putschistes, la leçon à tirer de cette situation est que les dirigeants africains doivent savoir quitter les choses avant les temps et en tout honneur.
Monsieur John Banza,
Je crois que je ne laisserai pas à notre compatriote Mouzihiroua de tirer une telle conclusion, comme l'a fait brillamment l'honorable Mouindou tout à l'heure. Mais c'est une comparaison très dangereuse. Il a évoqué une difficulté de ma part d'expliquer la situation, mais je ne peux pas expliquer ce que je ne maîtrise pas. Et il a tenté de transposer ce qui se passe de l'autre côté vers notre pays. Ce que je reconnais à l'honorable, c'est qu'il a un mandat national, qu'il a reçu du peuple congolais, et ce mandat national ne lui donne pas le mandat universel qu'il doit intervenir pour le compte de tous les peuples du monde. Et lorsque il fait son argumentaire, il tente d'universaliser tout ce qui se passe ailleurs et le transposer chez nous. Mais, monsieur l'honorable, c'est pas correct. Vous ne pouvez pas comparer.
Les contextes ne sont pas les mêmes.
Ne sont pas les mêmes. Vous êtes en train de comparer les Zimbabwe au Congo. Les Congo, c'est 6 fois plus que les Zimbabwe. La population, au Zimbabwe, c'est 16 millions. Chez nous, c'est plus de 90 millions. Donc, il faut pas comparer l'incomparable. Et vous êtes en train de similariser ce qui se passe de l'autre côté vers ce qui est chez nous. Mais nous avons connu notre révolution et nous avons normalisé le processus démocratique. Nous sommes allés aux premières élections en 2006 et nous sommes allés en 2011 aux élections. D'où vous avez reçu le mandat de la population et vous qualifiez ça d'élections chaotiques alors que vous continuez à bénéficier de ces mandats. Ce n'est pas correct et vous devriez être conséquent en disant soit je viens de ces élections chaotiques, je n'accepte pas ces mandats, soit en quittant la majorité qui vous apportez à ces mandats-là. Voilà un homme d'État. Il est conséquent. En plus, vous êtes en train d'insinuer.
Quand vous dites que vous êtes on ne doit pas, quand vous dites,
si vous permettez,
lorsque vous dites qu'on ne doit pas transposer, n'est-ce pas, la situation des Zimbabwe à la RDC,
puisqu'il y a deux réalités.
Quand on dit que les mêmes causes dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets, comment vous réagissez?
Scientifiquement, nous sommes des scientifiques. Scientifiquement, les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets.
Dans les mêmes conditions.
Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Nous avons deux pays différents. Par la superficie, par l'histoire, etc. Nous sommes indépendants depuis 1960. Voilà ce qui est grave, qui sort de la bouche de l'honorable.
Mais au-delà de tout ça, est-ce que les principes politiques ne restent pas les mêmes
quand
on dit que le pouvoir s'use?
Si vous permettez, il dit exactement ceci. On ne les souhaite pas. On ne les souhaite pas, mais cela est sous-entendu qu'il les souhaite effectivement pour le pays. Lorsqu'il dit qu'on doit l'arrêter, on doit arrêter. Il parle d'un président de la République, d'un président élu. Le président Mugabe était élu. Il dit qu'on doit l'arrêter, le jeter dehors et on doit formaliser un coup d'État. Voilà ce qu'ils veulent transporter chez nous. C'est ce schéma subversif. Voilà ce que leur regroupement qui s'appelle Rassemblement et dont il fait partie est en train de vouloir amener dans ce pays. Vous avez tort. Parce que ce pays est démocratique. Ce pays est engagé dans un processus démocratique. On vous a amené sur la voie de la légalité. On vous a amené sur la voie de la démocratie. Voici, vous pointez à l'horizon les élections. Nous étions dans toutes les étapes ici pour aboutir et consolider la démocratie. Vous ne pouvez pas en même temps vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas appeler à la subversion. Ce pays a connu tant de malheurs et nous ne pouvons pas accepter que nous y revenions. Quand le professeur insinue et conclut en disant que l'Union africaine est une organisation inutile et nuisible, c'est très dangereux pour un professeur des sciences politiques. Une organisation régionale qu'il qualifie d'inutile et de très dangereux. Moi, je pense que le professeur doit revoir ce qu'il a dit.
parce que l'Union africaine a été aux côtés des pays qui étaient au bord de l'explosion dans notre continent et les a accompagnés. L'Union africaine a accompagné beaucoup de processus avec brio. Qu'il me cite
Est-ce que vous pensez, M. Banza, vous pensez que l'appel de l'Union africaine sera entendu par les militaires qui ont pris le pouvoir au Zimbabwe? Lorsque l'Union africaine demande à ses militaires de retourner à l'ordre constitutionnel.
J'aimerais que le professeur me cite une seule organisation continentale ou régionale qui soit parfaite. Il n'y en a pas. Mais l'Union africaine a le mérite d'arrêter certains drames sur notre continent. Et je pense que l'Union africaine sera aux côtés du peuple zimbabwéen pour la stabilité et le progrès.
Honorable Ndunzangi, il y a une réflexion qui vient de Kinshasa.
Claude Moussombo Balimbala, appelant à partir de Kinshasa. Je ne pense vraiment pas que les militaires vont se retirer. Alors c'est vraiment un homme qu'on admire, puisqu'il a été dans tous les fronts. D'abord, il a commencé par combattre le colonialisme, ce qui a permis à son pays, le Zimbabwe, de devenir indépendant. En 1980, il s'est mué en autocrate, donc il est devenu un dictateur. Devant la pression sociale et la crise, en tout cas, il ne pouvait vraiment pas se maintenir dans la position qu'il avait de héros. Certainement, en tout cas avec l'âge, étant frappé de sénilité, on pouvait bien douter de ses capacités mentales et physiques de diriger un pays qui autrefois était le grenier de l'Afrique australe. Avec le départ de Mugabe, c'est aussi une haie du régime qui est en place ici à Kinshasa qu'on vient de couper.
Honorable Mouindou Nzangui.
Je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur et je le remercie beaucoup pour la pertinence de son analyse. Il a commencé... Il a fait de bonnes choses aussi pour les Zimbabwe. Et je crois que mon ami qui est à droite sait que c'est ça la similitude. Nous n'avons jamais refusé que l'effort que le président Joseph Kabila a fait pour réunifier le pays, que c'était avant. C'était une bonne chose et tout le monde l'a salué. Mais il dit, voilà, au fur et à mesure que ça a évolué, il devenait despote, ce que l'autre auditeur dit. Et c'est ça la dangerosité même des le pouvoir use, le professeur l'a dit, et l'usure du pouvoir ne produit que c'est pour des choses pour lesquelles on vient d'assister effectivement au Zimbabwe. Lorsque le pouvoir use, il faut savoir le quitter. Il faut savoir le quitter avant qu'il ne vous quitte. Personne n'aurait souhaité que Mugabe finisse comme ça. Par un coup d'état, alors que bon, se préparait que voilà, il pouvait mourir honorablement, qu'il soit enterré honorablement, mais voilà, ok, puisqu'il de sa vie, il est évincé par un coup d'état, mené par les anciens amis, parce que seulement, il n'a pas voulu quitter le pouvoir en temps. Et je crois qu'il faut saluer ces vents qui arrivent en Afrique.
Oui, il faut saluer ces vents qui arrivent en Afrique. Honorable, vous savez que les coups d'état ont toujours été mal perçus, et vous pensez qu'aujourd'hui, il faut les encourager?
Non, mais moi je suis un démocrate. Un démocrate ne peut pas encourager des coups d'État. Un démocrate ne peut pas encourager des coups d'État. Mais il faut dire...
Mais vous avez tendance à saluer ce qui vient de se passer au Zimbabwe.
Je dois le dire, la mort dans l'âme, que voilà, il y a des situations où déjà aussi se mettent dans des conditions qui pratiquement ne donnent que les coups d'État comme la seule voie de sortie. Je crois que au niveau du Zimbabwe, le comportement qu'affichent les militaires aujourd'hui, ça démontre qu'ils avaient encore de l'amour envers Mugabe. Parce qu'ils ne l'ont pas brutalisé jusque-là, ils ne lui ont pas fait du mal, ils veulent qu'il sorte honorablement, ils lui proposent même un exil honorable, même s'il résiste, ça veut dire qu'ils avaient de l'amour envers lui. Mais ils sont obligés, le général des armées a dit, nous sommes obligés d'arrêter ce qu'ils ont appelé la purge au sein du parti. Pourquoi? Parce que quelqu'un comme le vice-président qui a été limogé, par le simple fait que la femme du président a dit voilà, je vais être président et que lui me fait ombrage, vous savez que le déclencheur de la chose, c'est que dans un meeting du parti, la première dame a été liée par des militants du parti et elle a cru que les militants qui l'ont liée, ce sont les militants qui sont favorables au vice-président. Seulement pour cet incident-là, on chasse le vice-président.
on fait la purge à l'intérieur du parti. Est-ce que c'est acceptable? Je crois que les militaires n'ont pas eu de choix. C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne peut pas
attaquer. Vous avez suivi John Banza qui dit qu'il y a peu de choses, n'est-ce pas, qui sont connues par rapport à ce qui se passe actuellement au Zimbabwe. C'est pourquoi il demande qu'on soit prudent. Est-ce que peut-être qu'il y a aussi des éléments, n'est-ce pas, qui nous échappent et qui ont expliqué que l'on puisse arriver jusqu'à renvoyer, n'est-ce pas, les vice-présidents?
Bon, je crois qu'on ne va pas entrer dans la profondeur de ce débat zimbabwéen. Tout ce qui nous intéresse, c'est de dire quelles sont les leçons que nous tirons de ces coups de force. Okay? Je crois que c'est très important. Je voulais vous dire, effectivement, vous expliquer qu'il y a des situations qui arrivent parce que les gens n'ont plus d'autre choix. Alors, mon voisin de droite dit que voilà, les rassemblements préparerait des situations similaires. Non, nous ne sommes pas dans une logique de coup d'État. Nous l'avons dit que nous organisons des manifestations pacifiques, mais que ces manifestations...
Vous n'êtes pas dans une logique de coup d'État, mais vous comprenez quand même certains coups d'État.
Non, j'ai dit, nous organiserons, et nous allons organiser, à partir du 28, des manifestations pacifiques pour que le pays retourne à l'ordre constitutionnel, pour qu'on aille aux élections le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas dans une logique de coup d'État. Mais je voudrais que mon voisin de droite puisse savoir qu'il ne faut pas que les choses que nous ne souhaitons pas puissent arriver parce que seulement les gens veulent s'entêter et veulent rester éternellement au pouvoir alors qu'ils n'ont pas les moyens de conserver ce pouvoir.
Professeur Jeff Mdimbi, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. On la suit.
C'est Christophe Moussa de Bukavu Sud-Kivu. Je crois que l'exemple de Zimbabwe, c'est un bon exemple pour une armée qui veut prouver qu'elle est au service du pays et non au service des individus. Le président zimbabwéen, M. Robert Mugabe, avait déjà considéré son pays comme une entreprise privée ou familiale. Cet exemple pourra servir d'autres pays africains qui pensent qu'ils sont là pour servir les individus et non pour servir le peuple.
Professeur Jeff Mdimbi.
Ok, merci. Je voudrais encore une fois remercier notre compatriote de Bukavu. En effet, il vient d'évoquer une des raisons qui explique l'intervention militaire sur la scène politique. Il est vrai que l'armée intervient de plusieurs manières, où il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer l'intervention militaire sur la scène politique. Et je pense que j'étais déjà presque en train d'aborder cet aspect-là lorsque j'intervenais pour la première fois. Il est vrai que lorsque il y a des conflits entre les gouvernants et les gouvernés, au point que les gouvernants arrivent à confisquer le pouvoir, à organiser une sorte d'oligarchie dans laquelle le pouvoir et le peuple ne se retrouvent pas, alors, lorsqu'il y a des tensions vives entre les deux composantes de la totalité sociale, à ce moment-là, l'armée peut intervenir pour essayer un peu de mettre de l'ordre. Et par une sorte de métaphore, on se souviendra que le président Mobutu, ayant fait son coup d'État de 1965, parmi entre autres raisons, il a évoqué le fait que, les civils ont mis le pays à mou. Alors il fallait que vite les militaires arrivent à prendre les choses en main. Et effectivement, si les militaires prennent les choses en main, c'est tout simplement parce qu'il existe des stéréotypes qu'on leur accorde, notamment l'esprit de corps, notamment la discipline. Alors, c'est ça ce qui explique cette intervention. On pense que lorsque les militaires interviennent sur la scène politique, ils vont assurer la discipline, ils mettront de l'ordre, ils ont un sens élevé d'esprit de corps. Alors, à ce moment-là, tous les problèmes, tous les conflits seront, dans la mesure du possible, réglés.
Professeur. Professeur,
oui.
Voilà, on a une certaine expérience, n'est-ce pas? On sait que les pouvoirs qui s'obtiennent souvent par des coups de force sont loin, n'est-ce pas, de répondre aux attentes de la population.
Oui, c'est vrai. C'est pourquoi tous les pouvoirs qui se prennent par la force ne doivent en aucun cas être considérés comme des pouvoirs définitifs. Ce sont donc ces pouvoirs-là instaurent un régime d'exception en attendant le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, on ne doit pas considérer que lorsque on a pris, c'est ainsi que vous allez remarquer que même les militaires, les gens qui ont pris le pouvoir par la force, ont voulu par la suite légitimer leur pouvoir en organisant les élections. Donc, le coup d'État d'une manière générale a toujours été considéré comme un phénomène éphémère,
professeur,
en attendant les retours à l'ordre constitutionnel.
Professeur,
il est vrai que
Professeur, oui, le président sud-africain a envoyé des émissaires au Zimbabwe, le ministre de la Défense et de la Sécurité. Et à votre avis, c'est quoi le scénario possible? Mugabe est réhabilité et en contrepartie, il accorde une certaine amnistie aux militaires qui ont tenté de les déstabiliser, ou encore les militaires acceptent de retourner dans leur caserne et en contrepartie, on instaure une transition sans le président Mugabe, une transition qui aboutirait à l'organisation des élections libres et démocratiques. Ou encore, les militaires placent à la tête du pays une personne qui leur sera, n'est-ce pas, fidèle, et donc qui pourra pérenniser les intérêts des vétérans.
Merci
c'est
beaucoup.
Quoi le scénario possible?
Shakespeare disait que la vie est une comédie où chacun doit jouer correctement son rôle. Et c'est vrai, le président sud-africain a fait ce qu'il pouvait faire, mais quelle est la leçon que ce président de la République a à donner aux autres pays dès lors que lui-même a des problèmes sérieux de corruption dans son pays?
Non, le scénario possible, selon vous, professeur, c'est quoi le scénario possible aujourd'hui?
Oui.
Toutes ces démarches qui sont menées, n'est-ce pas, à l'endroit des militaires, pourraient aboutir à quoi, à votre avis?
J'ai dit ceci, que toutes ces démarches qui sont menées donc ne peuvent produire des effets escomptés que dans la mesure où les militaires se sentiront réellement menacés. Alors, si cela ne s'arrête qu'au niveau des déclarations, alors il ne serait pas surprenant de constater que les militaires vont assurer la gestion du pays pendant un temps, jusqu'à ce que l'on arrive à un retour à l'ordre constitutionnel.
Merci, M. John Banza. Les leçons à tirer des événements des Zimbabwéens. Quelles sont les leçons que les politiques congolais peuvent tirer de ces événements?
Les amis du rassemblement représenté ici par l'honorable Mouindou disent clairement les choix qu'ils ont faits. Ils ont fait les choix de la subversion, parce qu'ils ne peuvent pas dire d'un côté qu'ils sont démocrates et de l'autre côté comprendre les coups d'État. Et donc ils s'en inspirent parce qu'ils sont exactement dans ce schéma-là.
Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer
de ces événements-là? C'est la démocratie qui doit primer. Et nous sommes dans le processus démocratique. Nous sommes en train de mener à bon port l'accord qui nous lie avec les amis qui sont ici. Et donc je ne vois pas en quoi ils seront inspirés des coups d'État, alors que le processus est en train d'être mené et nous allons aboutir aux élections.
En conclusion, parce que c'est souvent à la fin de l'émission.
Oui, et ceci démontre en clair les trois mots, l'inconsistance, l'inconséquence et l'inconstance de toute la démarche. Ce que je veux dire, en définitive, lorsque vous voyez, c'est tiré de la sagesse africaine, lorsque vous voyez un aveugle vous menacer de lapidation, c'est qu'il a un pied sur une pierre.
Honorable Mouindo Nzangi, c'est quoi les leçons qu'on peut tirer des événements des Zimbabwe? En conclusion.
La première leçon, il faut quitter le pouvoir avant qu'il vous quitte tragiquement. C'est important. La deuxième leçon, c'est qu'effectivement, on voit le comportement républicain de l'armée des Zimbabwe. Je crois que dans tout ce que nous faisons aussi, on doit dire que l'armée doit jouer quelque part une certaine neutralité pour aider les politiciens à pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Je crois que la troisième leçon, c'est de dire que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Il n'y a personne qui pouvait rêver que Mugabe pouvait quitter le pouvoir de cette manière-là. Mais quel que soit l'état que ça brille, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde sera en évidence que, il n'y a aucun pouvoir qui est éternel, le pouvoir terrestre ici. Il faut savoir faire du bien. Il faut savoir aider la population. Il faut savoir pour que cette population vous protège, comme a été le cas de la Turquie, où un coup d'État a été déjoué par le peuple, alors qu'il était mené par l'armée. Lorsque vous faites du bien pour la population, elle aussi, elle sait vous protéger. Mais lorsque vous faites du mal, vous ruinez votre propre pays. Et des phrases du genre, Voilà, il faut, on ne peut pas laisser le pays à n'importe qui. Le pays, c'est un héritage. Il faut enlever. Il faut laisser le pays marcher sur la voie démocratique.
Merci.
Comme la RDC, nous sommes un pays démocratique. Tous, nous allons vers les élections qui doivent être organisées le plus vite possible. Et à ce moment-là, nous aurons tiré les bonnes leçons de cette dernière honte de Mugabe.
Merci, professeur Diouf Moudimbi. En conclusion, c'est quoi les leçons à tirer?
Oui, pour moi, il faut éviter que les œuvres des temps des jours soient effacées en un jour seulement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la technique, et à Alain Irung et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Capille.